RFI, les 3 heures à Paris, 1 heure de moins en temps universel. Bienvenue à vous pour un nouveau journal.
Mathis Limano.
Week-end et dimanche marqués par de violents combats entre Israël et le Hezbollah, Beyrouth, de nouveau visé ce dimanche soir par des frappes de l'État hébreu. Aux États-Unis, l'équipe de Donald Trump enfin au complet, photo de classe du futur gouvernement dans ce journal. Et puis, en France, la grogne des agriculteurs ne cesse de monter. Ils sont vent debout contre l'accord de libre-échange du Mercosur. À Beyrouth, ce dimanche soir, dans la nuit noire, une forte explosion. L'une des nouvelles frappes israéliennes vient s'abattre sur la banlieue sud. C'était il y a quelques heures. La guerre entre Israël et le Hezbollah, de plus en plus violente. Des centaines de projectiles lancés au cours de la journée vers l'État hébreu qui continue de mener des raids sur le Liban. Côté israélien, une réunion sécuritaire s'est tenue dans la soirée à Tel Aviv et elle pourrait décider de la suite de cette guerre. Michel Paul depuis Jérusalem.
Plus de 300 tirs depuis le Liban, des roquettes et aussi des drones, quelques 500 alertes en Israël qui ont envoyé 1 million d'Israéliens dans des abris, dans le nord du pays, en Galilée, mais aussi dans le centre, dans les banlieues de Tel Aviv, et même dans le secteur de Toul Karem en Cisjordanie, où une roquette s'est abattue en milieu d'après-midi. En tout, une dizaine de blessés, mais surtout des dégâts matériels importants. C'est la journée la plus intense depuis le 7 octobre 2023, relève les médias ici ce soir, et cela fait suite aux frappes israéliennes, notamment à Beyrouth, tout au long de ce week-end, également d'une intensité sans précédent. Ce soir, une réunion sécuritaire autour du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'agit de finaliser un arrangement politique, mais en attendant, Israël entend bien poursuivre et même intensifier ses attaques pour marquer des points sur le terrain. Ce soir, une source militaire israélienne le souligne, en cas d'échec des efforts de médiation, Israël pourrait s'en prendre aux infrastructures libanaises. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
L'armée libanaise prise entre les deux feux. Un soldat tué, 18 autres blessés dans un tir d'artillerie israélien ce dimanche. Il visait une base militaire dans le sud du Liban. Depuis Beyrouth, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, alerte. Le pays est au bord du gouffre. Il faut un cessez-le-feu immédiat. Les écoliers et étudiants de la capitale libanaise appelés à rester chez eux. Ce lundi, les établissements garderont porte close. Annonce du ministère de l'Éducation. Afin de garantir, dit-il, la sécurité des élèves. À Gaza, ce sont les hôpitaux, en tout cas ceux qui fonctionnent encore, qui doivent réduire, voire cesser leurs activités. La faute au manque de carburant dont l'acheminement est bloqué par Israël. Et ce nouveau bilan des victimes depuis le début de la guerre, bilan communiqué ce dimanche par le ministère de la Santé du Hamas, 44 211 morts et plus de 100 000 Palestiniens blessés. Plus tôt dans le week-end, Lloyd Austin, ministre américain de la Défense, a appelé Israël à améliorer la terrible situation humanitaire dans la bande de Gaza. Lloyd Austin, qui devra laisser son siège à la tête du Pentagone le 20 janvier, date de la prise de pouvoir de Donald Trump. À sa place, c'est le présentateur de Fox News, Pete Hegseth, qui prendra les rênes de la défense américaine. Le cabinet du 47e président, désormais au complet, avec une particularité, Achim Nipold, Donald Trump s'est entouré de ses proches les plus fidèles.
Donald Trump, version 2.0, cette fois le président élu n'a pas l'intention de répéter les erreurs de son premier mandat. En 2016, le gouvernement comptait encore des républicains modérés, parfois prêts à lui tenir tête, mais ça, c'est du passé. Pour son grand retour, Donald Trump s'entoure exclusivement de fidèles, quitte à mettre de côté les compétences requises pour certains postes. Son cabinet, une équipe 100% alignée sur sa vision, et tant pis si certains choix font grincer des dents. Prenez Pete Hegseth, par exemple, animateur vedette de Fox News. Il prend directement les rênes du Pentagone, ou encore Robert F. Kennedy Jr., connu pour ses positions anti-vaccins, à la tête du ministère de la Santé. Et pour l'éducation, une ancienne dirigeante du catch professionnel. Le message est clair, tout ce petit monde devra suivre à la lettre le programme de Donald Trump, au menu expulser massivement les migrants sans papier, adopter une ligne dure face à la Chine et refondre l'administration fédérale avec en prime le soutien de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk.
Le cabinet, dernière nomination, excusez-moi, celle de l'avocate Brooke Rollins à l'agriculture, une fidèle déjà présente dans l'équipe de Donald Trump lors de son premier mandat. En Uruguay, le candidat de la gauche, Yamandu Orsi, déclaré officiellement vainqueur à la présidentielle. Il l'emporte avec près de 80 000 voix de plus que son rival, le candidat du camp présidentiel, Alvaro Delgado, de centre droit. La victoire de Yamandu Orsi marque le retour de la gauche au pouvoir. Et puis, en Roumanie, c'est un second tour surprise qui se dessine pour la présidence. Lui était attendu, le premier ministre pro-européen, Marcel Ciolacu, au coude à coude avec le pro-russe, Kali Georgescu, une qualification inattendue pour le second tour. Le dépouillement des derniers bulletins est en cours. Clap de fin hier à la COP29 à Bakou. La conférence sur le climat s'est achevée avec un accord à minima de 300 milliards de dollars distribués chaque année pendant une décennie aux pays en développement. Et ce, pour lever ces milliards, l'idée d'une taxe progresse. L'une d'entre elles concerne le plastique. 460 millions de tonnes en sont produites chaque année. Un prélèvement sur sa production pourrait apporter jusqu'à 35 milliards de dollars par an. Dans ce contexte, ces négociations depuis 2 ans à Busan, en Corée du Sud, 175 États tentent de parvenir à un traité universel. Ils ont jusqu'à vendredi. Une ultime réunion se tient cette semaine. 2 camps se font face. L'un, majoritaire, est favorable à un traité contraignant qui réduit fortement la production de plastique. L'autre, emmené par les pays pétroliers, Arabie Saoudite, Iran et Russie en tête, veut limiter au traitement et au recyclage des déchets en aval de la filière. Mais au milieu de ça, quelle position pour l'Afrique ? Écoutez l'analyse de David Azoulay, expert de ce sujet au Centre pour le droit international de l'environnement.
Dans sa grande majorité, l'Afrique s'est prononcée pour une réglementation du plastique au long du cycle de vie, c'est-à-dire à partir de la production, pour une réglementation des produits chimiques, pour des besoins de financement très clairs, il y a environ 52 ou 53 pays très largement alignés sur les demandes de la coalition de haute ambition. Notamment parce que l'Afrique n'est pas un grand producteur de plastique et c'est donc extrêmement compliqué pour les pays africains de mettre en œuvre les accords internationaux et de se protéger des impacts de la pollution plastique si l'ensemble des obligations est laissé en aval de la production plastique. Il y a quelques voix dissonantes au sein de la région africaine parmi les pays producteurs de pétrole ou dépendants de producteurs de pétrole comme l'Algérie, l'Égypte et dans une certaine mesure l'Afrique du Sud. Et on voit certains pays qui sont en train d'évoluer vers une influence géopolitique russe qui eux aussi ont tendance à adopter des positions qui sont moins alignées avec les objectifs du reste du continent.
C'était David Azoulay, expert des négociations plastiques au micro de Géraud Bosman. Dépôt de plaintes dans les hôpitaux pour plus de discrétion, formation des policiers. Voilà quelques exemples de mesures qui devraient être annoncées ce lundi par le Premier ministre français Michel Barnier, et ce à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. France, toujours, où le mouvement de colère des agriculteurs entre dans sa 2e semaine. Le monde paysan vent debout contre la possible signature d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur en Amérique latine. Contrairement à ce qu'on avait pu observer il y a un an, le mouvement reste pour l'instant plutôt cantonné aux agriculteurs français. Il y aura cette semaine des actions dans tous les départements de l'Hexagone. Nathanaël Vitran, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la coordination rurale, la confédération paysanne, voilà les principaux syndicats et ils multiplient les appels à se mobiliser.
Un même combat que chacun semble pourtant mener dans son coin. Et pour cause, en janvier prochain, les exploitants seront appelés à renouveler les chambres d'agriculture et donc à choisir leurs représentants pour les 6 ans à venir. En 2019, la FNSEA, ultra majoritaire depuis toujours, s'était alliée aux jeunes agriculteurs. Ensemble, ils avaient récolté 55% des suffrages. Mais les choses pourraient changer en 2025. La coordination rurale espère capitaliser sur une mobilisation musclée et des actions coup de poing qui ont marqué les esprits. Le syndicat défend une agriculture plus traditionnelle, moins productiviste que la FNSEA et plusieurs de ses cadres ces dernières années se sont rapprochés de l'extrême droite. En 2019, elle était arrivée au coude à coude avec la Confédération Paysanne, un syndicat classé à gauche, parfaitement aligné avec les revendications des agriculteurs contre le Mercosur, moins audible quand elle défend la nécessité d'une agriculture plus durable dans une France agricole encore très marquée par le productivisme.
Nathanaël Vitran, et puis du sport pour refermer votre votre journal du foot, les matchs de ce dimanche soir. En France, Nice se fait une place dans le top 5 de Ligue 1 après sa victoire sur Strasbourg 2-1. En Espagne, derby basque entre Bilbao et la Real Sociedad, victoire sur la plus petite démarche pour Bilbao 1-0. Et puis, plus tôt dans la journée, toujours en Espagne, le Real Madrid de Kylian Mbappé, buteur, est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse de Leganés. RFI, il est 3h10 ici à Paris.